vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio.
Trois jours sans vous. Vous y avez pensé, vous, à ce qu'on allait devenir ? Moi, oui. J'étais là, allongée, malade, à me demander est-ce qu'ils m'ont oublié ? Est-ce qu'ils m'en veulent ? Parce que vous et moi, on a une histoire. Une vraie, une belle. Une petite aventure quotidienne. Vous êtes là, vous m'écoutez, même quand mes mots boitent un peu, même quand je m'égare. Et puis, silence radio, littéralement. Plus rien. Je vous imagine un peu fâchée, un peu déçue. Mais aujourd'hui, voilà, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve. Enfin. Alors oui, je me dis qu'il faut marquer le coup, faire de ces retrouvailles quelque chose d'inoubliable. Je ne peux absolument pas revenir l'air de rien. Justement, je vous ai préparé un petit moment particulier. Vous allez voir, ça ne ressemble pas à nos rendez-vous habituels. Là, je vous emmène à la campagne. Pas sur une carte postale, non. Dans une vraie maison, près d'un poêle à bois qui crépite doucement. Est-ce que vous l'entendez ? On enlève nos chaussures. On s'installe dans un canapé qui grince un peu. Ah non, même pas. Il est même très confortable. Il vous enveloppe comme un vieil ami que l'on apprécie prendre dans ses bras. Bon, je crois que j'en fais peut-être un peu des tonnes pour ces retrouvailles. Dites-moi, surtout si j'en fais trop. Si jamais il n'y a plus de place, d'ailleurs, asseyez-vous autour, sur le tapis, ou même sur une pile de bouquins, ça fait totalement le job. Ici, il fait chaud, il fait bon. C'est le genre d'endroit où on a envie de poser son café, puis ses soucis aussi. Ce n'est pas n'importe où, ni chez n'importe qui. Aujourd'hui, on est chez Sébastien Rousselet, vous savez, l'un des visages de Rookine. Ce duo qui a touché nos cœurs, qui a transformé nos petites histoires en grandes chansons. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour le grandiose. Non, on est là où tout commence, chez lui, là où les mots se cherchent avant de devenir des refrains. Ensemble, on va revenir sur ses premiers frissons musicaux, sur cette aventure avec Nino, sur scène et dans les coulisses. On va parler des histoires qu'il a racontées et de celles qu'il rêve encore d'écrire. Et moi, je vous propose de vivre tout ça, comme si on y était. Comme si on faisait partie de ce décor. Alors soyons discrets, tendons l'oreille. Voilà, installez-vous bien, prenez un café, il est délicieux, je vous le promets, et laissez-vous porter, parce que le grand format de l'agité du local, c'est maintenant vous, moi et Sébastien Rousselet. Et c'est le grand format dans l'agité. Sébastien, est-ce que tu peux me parler de ta toute première rencontre avec la musique ? Tu sais, ce moment où elle entre dans ta vie et où tu te dis peut-être, tiens, elle a quelque chose à me dire, celle-là.
Les premiers pas dans la musique, je pense que c'était quand mon grand frère, quand moi j'étais petit, jouait de la guitare et chantait. Premier pas dans la musique, c'est aussi quand tout le monde écoute de la musique et que t'es petit. C'est-à-dire que tu la pratiques pas, mais tu la reçois. Et tu peux, moi je connais plein de musiciens qui sont des musiciens non pratiquants en fait. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la musique très fortement. Et pour eux, ça a autant d'importance que quelqu'un qui en joue. Donc moi, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup en moi. On écoutait beaucoup de vinyle chez moi. Tout le monde écoutait plein de musique, comme j'avais beaucoup de frères et sœurs. Chacun écoutait des trucs différents. Et moi, j'emmagasinais tout en fait. Et puis plus tard, à 15 ans, j'ai repris la guitare de mon frère, il m'a redonné quelques cours, et puis après je me suis démerdé à l'oreille pour retrouver tout ce que j'écoutais à l'époque. C'était beaucoup de la chanson, beaucoup de Brassens, de Renaud, mais aussi les Doors, tous les groupes que j'écoutais à l'époque, puisqu'on était au début des années 90.
Tu as très vite exploré la musique avec ta guitare, avec des groupes au lycée. Tu as découvert la musique électronique, le rap, que tu connaissais peu. Il y a eu Babel en aventure solo d'abord, et puis ensuite tu as rencontré les trois autres membres de ce que deviendra Babel en groupe en 2010. Donc Nico, DJ Slade, Solène au violoncelle et Nino au clavier. Quand on parle de musique, Sébastien, ce sont des histoires finalement qu'on raconte. Quelles étaient les premières histoires que toi, tu avais envie de porter? Certains artistes choisissent un prisme très politique, d'autres comme Nuit Incolore qu'on recevait récemment plongent dans l'intime et racontent sa génération. Quelles sont les histoires qui résonnaient le plus dans ce que tu voulais faire en musique tout au départ?
Ben, les premières histoires, justement, c'était quelque chose. Je pense que j'étais pas. Pourtant, j'étais un grand garçon hein, dans Babel. Déjà, j'avais plus de 30 ans. Mais j'avais tendance un peu à me chercher encore et à me planquer, avec le recul, je dis ça, hein, derrière des choses très généralistes et pas très incarnées, justement. Il y a peut-être certaines chansons qui viendraient me contredire, mais bon, il y avait des chansons. La mort a toujours été très importante. Puisque avec Rookine, j'ai chanté Mortel, et avec Babel, je chantais le bal, donc le bal des Maccabées. Ce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de points communs, c'est voir la mort comme une fête, en fait. Donc, il y a un truc, là, je ne sais pas, il faudrait faire une thérapie pour comprendre. Mais il y a un rapport à la mort qui est très, très fort. Et puis, mais au départ, c'était quand même un peu politique, un peu engagé, un peu social, sociétal. Mais par contre, pas très incarné. Et en fait, avec le temps, et notamment dans Rookin, où là, j'ai vraiment... je pense que je suis arrivé à un stade de ma vie où, d'une part, je n'avais plus rien à foutre de correspondre à des choses, à un avis qu'on pouvait se faire de moi. Je pense aussi que, comme tu viens de le dire, on était dans une période où l'intime revenait sur le devant de la scène. Et donc, j'ai vachement parlé de moi, de la parentalité, du rapport aux enfants, du rapport au sexe, du rapport à la famille, enfin, à plein de choses. Et en même temps, en essayant toujours... d'être beaucoup plus subtil, mais quand même de mêler le politique à ça. Parce que pour moi, on parle toujours de politique sans s'en rendre compte, en fait. Moi, toutes les chansons sont un peu charrient quelque chose de politique, même quand c'est pas de l'engagement premier degré. Faudrait voir le détail des chansons qui sont faites aujourd'hui, mais en fait, toutes plus ou moins, tu vois, quelqu'un qui va dire qu'il a été, il s'en est pris plein la gueule, mais qu'il s'est relevé, qu'il est plus fort que tout et machin, et en fait, mes failles m'ont construit et mes blessures m'ont construit. Bon, ça peut être joli, ça peut être très beau, ça peut être sincère, mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à de la pensée managériale et à du macronisme aussi, tu vois. Parce que, tu vois, c'est-à-dire que tu te fais toi-même. Il y a un peu une logique de coaching, de développement personnel là-dedans. Et j'entends ça parfois dans certaines chansons, tu vois. Donc ça, c'est politique aussi. Donc tout dépend comment tu parles de l'intime. Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que les deux m'intéressent, le psychologique, l'intime et aussi le politique. Et en fait, dans Rookin, je pense, avec le recul, que j'ai et qu'on a essayer de joindre les deux.
Et alors justement, si on parle de Rookin, Nino était déjà dans Babel, et puis à un moment vous vous êtes dit, tiens, on va faire quelque chose vraiment tous les deux. Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire qu'en fait, avec Nino, on s'est rencontrés en février 2010. Il avait 17 ans et demi, le branleur, hein. il allait passer son bac, il n'avait pas le permis. On s'est rencontrés chez la personne qui nous avait fait nous rencontrer, qui s'appelle Gérard Ramirez, que je salue, et on a sympathisé. Il m'a dit, mais t'as pas envie là d'étoffer ton truc un peu, de trouver des vrais icos avec toi, hein, parce que moi j'étais encore en dehors de ce projet tout seul. Et je fais, si, justement, moi à l'époque j'écoutais beaucoup Radiohead et tout, j'avais des envies comme ça musicales assez ambitieuses. Il m'a dit, écoute, moi je connais du monde à Cholet, et c'est lui qui m'a fait rencontrer DJ Slade et Nino. Et donc c'est chez lui, chez Gérard, que Nino et moi on s'est rencontrés. Et tout de suite, en fait, on avait pas mal de références en commun parce que lui écoutait aussi la musique de ses parents, la musique des années 70, il écoutait beaucoup. Simon & Garfunkel et Cat Stevens et d'autres chanteurs de l'époque. Moi aussi, j'écoutais ça. Et puis, on avait aussi des références en commun, beaucoup plus actuelles. Et puis surtout, on s'est marré assez rapidement, quoi. On est parti très vite à déconner. Et ça nous a vraiment rapprochés. Et donc, en fait, à l'intérieur de Babel, il y avait déjà une complicité entre nous. On avait déjà des envies qui n'étaient pas forcément partagées par Solène et Nico. Et quand on s'est séparés en 2018 avec Babel, un an après, ça y est, on était déjà reparti à faire des chansons sans savoir ce qu'on allait faire. Mais quand on a eu les chansons qu'on faisait en studio le soir, parce que la journée, on bossait pour d'autres, on écrivait pour d'autres. Et le soir, on finissait à 3h du matin à faire des chansons à nous pour se marrer. Et quand on s'est retrouvé avec 7-8 chansons, on s'est dit, faisons un groupe, en fait. Et donc, notre premier concert, on l'a fait en septembre 2019. C'était pour un festival de cirque à Paris.
Tu écris les textes, Nino composait les musiques. Ça, c'est un équilibre qui s'est trouvé assez rapidement. Je t'ai déjà entendu en parler où tu expliquais que c'est bien justement que chacun ait son rôle et que ça ne se mélange pas forcément trop.
Disons qu'avec Nino, ça fonctionnait comme ça, si tu veux. Lui, il était très à l'aise musicalement. Moi, je suis plus à l'aise dans le texte que dans la musique. Ça, je compose, je peux faire ce qu'on appelle des top lines, c'est-à-dire des mélodies. Mais voilà, là, Nino, moi, ça m'allait très très bien de me caler dans sa musique. Et lui, ça lui allait très très bien de se caler sur mes textes. C'est quelque chose qui s'est vraiment fait tout naturellement. Et comme tous les deux, on a une tendance à être un peu maniaque chacun dans son domaine, ça allait très bien comme ça, en fait. On se faisait parfois des retours, hein, mais chacun avait quand même son précaré, tu vois. C'était vraiment un truc à deux têtes, où moi c'était le texte et lui la musique.
Et donc, ce qui a vraiment participé à lancer Rookin, on va dire, au plus grand public, c'est une émission de télé dans laquelle vous êtes passé. Vous avez hésité avant de vous lancer, ça n'a pas été si évident que ça.
Ouais, parce qu'en fait, on nous a proposé de participer à cette émission. En fait, l'émission avait embauché ce qu'on appelle des chasseurs de têtes, c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de repérer les nouveaux talents. Et nous, on connaissait, donc il y avait un type qui avait bossé en maison de disque autrefois. On l'avait démarché à l'époque où il était en maison de disque. Il voulait nous signer, mais finalement, il n'a pas eu l'accord de sa direction. Il est parti de ce label. Et comme il s'est retrouvé après embauché par Nagui pour débusquer des talents pour The Artist, bah, il a tout de suite pensé à nous, en fait. Et quand il nous a proposé ça, nous, on a mis, je ne sais pas, peut-être 2 mois à se décider, parce que la télé, c'est un, pour moi en tout cas, c'est un peu le chétan, quoi. Tu vois, je suis un peu excessif, mais j'avoue que là, les grosses machines, les gros bazars, où en plus il y avait un côté télé-réalité qui en fait n'en était pas vraiment un, c'était vraiment un pur talent show où tu étais vraiment sur de la musique, mais on nous l'a vendu un peu comme ça parce que même ne savait pas trop, je pense, au départ où ils allaient. Et moi, je voyais Starac et tout. Bon, c'était un peu une définition de l'enfer, en fait. Hein. Et je disais, mais on va pas aller là-dedans. Nino, il était encore plus tétanisé que moi. Mais lui, parce qu'il n'était pas habitué avec la posture de chanteur, encore. C'était le tout début de Rookin. On était à peine 2 ans après notre premier concert. Donc, lui, il avait en plus ce trac-là, cette incertitude-là, que moi, j'avais pas. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, t'es con. Parce que c'est par peur, en fait, que tu veux pas le faire, ce truc-là. C'est-à-dire que, finalement, pour moi, finalement, la curiosité a été plus forte.
Et donc, il y a eu le premier titre, enfin, en tout cas, celui qui a vraiment déclenché quelque chose, c'est Mortel. Et là, peut-être que vous êtes confronté, je ne vais pas dire pour la première fois, mais il y a quand même eu un retour très engagé du public envers par rapport à ce que vous proposiez, quoi.
Ouais, c'est vraiment la bascule. Ça a été quand on a joué Mortel. Là, c'est parti assez vite. Il y a eu vraiment des réactions hyper fortes. Notre Instagram, il a dû faire, je sais pas, x2, x3, x4 en l'espace d'une soirée. Et puis, on a eu plein de retours sur ce morceau. Gaëtan Roussel nous a vus sur ce morceau. Il a dit, vas-y, je vous embarque avec moi en première partie. Vous ferez mon Olympia l'année prochaine. Voilà. Puis là, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé. Et puis, ouais, on a eu plein de retours de tout le monde, que ce soit les gens qui participaient à l'émission, que ce soit Nagui lui-même et toute son équipe. Ils disaient, mais cette chanson, elle est incroyable. Enfin, voilà. Et puis après, il s'est avéré qu'on a gagné ce truc-là. Et donc, bah, là, on a effectivement très bien fait d'y participer, puisque ça a été quand même au-delà de l'expérience humaine et artistique qui était réelle, parce que jouer sur scène, ça n'a rien à voir avec le fait de faire une télé en direct, où tu as des caméras partout, tu as une caméra là, et tu dois jouer en même temps et regarder en face de toi et faire comme s'il y avait plein de monde, alors qu'en fait, il n'y a personne. Bon, c'est pas rien, c'est une sacrée expérience. Et puis en plus, le fait de gagner, ça a été... évidemment, il y a une couverture médiatique, on avait des lots en plus qu'on gagnait, j'appelle ça des lots, mais comment dire. Ouais, c'est ça, des trophées où en fait, on avait une promo à radio, la diffusion de notre titre sur France Inter. Donc là, ça te booste bien. Il y avait quand même un petit peu, pas longtemps, mais quand même un petit peu France 2 derrière. Je dis pas longtemps parce qu'en fait, l'émission a été un tel flop à leurs yeux qu'ils ont préféré enterrer le truc vite fait pour. Voilà. Mais nous, on s'en foutait. Nous, on avait tout gagné, quoi. On tenait pas plus que ça, même à ce que ça marche à fond parce que. On voulait pas du jour au lendemain, tu vois. Il y avait cette angoisse-là aussi de du jour au lendemain qu'il y ait ta gueule partout et que tu sois reconnu. Et moi, j'ai envie d'aller au resto avec mes potes et à la piscine avec mes gosses, tu vois. J'ai pas envie de... Et voilà, donc ça n'a pas été le cas. Donc c'était très bien. Et puis après, on a signé en label, on a rencontré un tourneur, Periscope, et tout s'est enchaîné, quoi.
Et donc un premier album masculine qui porte le nom masculine, mais c'est aussi le titre d'une chanson d'ailleurs. Et je trouve intéressant cette thématique qui est très peu abordée, peut-être encore moins de la bouche de deux hommes, de deux générations différentes. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est des thématiques qui viennent assez facilement pour tous les deux, qui sont venues assez facilement, ou est-ce que c'est quelque chose de réfléchi en se disant, tiens, on va amener des nouvelles thématiques qu'on n'aborde pas facilement en chanson, en radio?
En fait, il n'y a rien de réfléchi, hein. On s'est pas dit tiens, on va faire un album thématique un peu concept. À chaque fois, c'était pas du tout réfléchi, ni dans la musique. Alors, on y réfléchissait après coup, notamment musicalement, en disant tiens, ça peut être bien quand même qu'il y ait des gimmicks qui reviennent dans chaque chanson, qui soient les mêmes, histoire qu'il y ait une espèce de fil conducteur dans le traitement des voix, que ce soit un peu le même, utiliser un peu les mêmes synthés, parfois, pas toujours, pour qu'il y ait une couleur commune. En revanche, les thématiques, c'est parce que ça s'est fait sur une période donnée, et que donc, quand tu es dans une temporalité relativement resserrée, tu es un peu tout le temps dans les mêmes questionnements, les mêmes problématiques. La problématique de la famille, je dis vraiment problématique, je dis même pas le sujet. Parce que pour moi, c'est un sujet très problématique, la famille. Problématique au sens où tout est mêlé à la fois, tu as quelque chose de très beau et de terriblement enfermant, dont on parle dans Les enfants sont des enfoirés, par exemple. Masculine, bah ouais, c'est pareil. Qu'est-ce que ce truc, la masculinité, qui est un peu ridicule, qu'on tourne en dérision parce que masculinisme, et en même temps, nous, on est deux mecs, six hétéros, des gros bourrins de mecs de base, et voilà, on est comme ça, et en même temps, comme on le dit au début de la chanson, je crois que c'est Nino qui chante ça, c'est quoi déjà ? De Mohamed Ali à Sergio Leone, je ne déteste pas ma testostérone, tu vois, c'est... Ouais, il y a quelque chose que j'aime bien aussi là-dedans, dans cette espèce de pas de virilité, mais de masculinité, qui par ailleurs traîne beaucoup de casseroles, c'est une réalité. Et on le dit aussi dans la chanson.
De Mohamed Ali à Sergio Leone, je ne déteste pas ma testostérone, mais il n'y a pas de quoi s'en faire une couronne. Je peux pas plaire les patrons ni les patrons, je suis roi. Grâce à mon petit gay, je fais la loi et toi tu as tes règles. Pas certain que tout ça soit mérité. Perso, j'ai pas voté. Non, non, ni Dieu ni paix. Je ne suis qu'un mec. Un gosse de 1m80 et quelques. Un peu fragile, tendre comme un steak. Un peu viril,
tout le monde.
Mais on s'en bat. Aujourd'hui je sais où est ton clito.
En fait, ça traite beaucoup de problématiques. Tout est toujours noué, c'est comme mortel. C'est à la fois la mort qui est là, et en même temps, il me semble que c'est un morceau très vivant et qui rend la vie d'autant plus précieuse qu'elle est courte. Voilà. Donc, toutes ces thématiques-là, non, elles sont venues comme ça. Et puis, c'est des thématiques qui nous parlaient à tous les deux aussi, parce que moi, j'écrivais pour deux, ce qui est un exercice, mine de rien, pas si simple. Alors, on avait, comme on était tout le temps, enfin, beaucoup fourré ensemble avec Nino, je finissais par parler un peu comme lui, où je comprenais ce dont il parlait, parce qu'on a quand même 16 ans d'écart. Moi, je vis à Rabelais-sur-Layon, en Cambrousse, lui, il vivait à Paris. Mais bon, lui, c'est un bouseux aussi, puisqu'il est né à Cholet, et moi, je vais régulièrement à Paris. Donc, on avait quand même beaucoup de passerelles. Et moi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à mon époque. J'ai l'impression d'y être beaucoup relié. Donc, je ne suis pas encore complètement boomerisé. Et puis, le fait d'avoir des gosses, moi, j'ai des enfants qui ont entre 20 et 12 ans, donc... Comme je suis très proche d'eux, je me sens très relié à mon temps. Et donc, je pense que ces thématiques-là, avec quand même un regard et des mots de mec de mon âge, à l'époque, j'avais quoi, 44, 45 ans, ça crée un truc un peu étrange je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas trop le recul pour le dire, mais une espèce de langage un peu vert, un peu fleuri, parfois avec des expressions qui peuvent peut-être sembler un peu anciennes, mais avec des thématiques qui sont, me semble-t-il, très ancrées dans notre présent, quoi.
Justement, tu parles d'une certaine légèreté, quelque chose de festif qui se dégage, peu importe le sujet. Est-ce que c'est une envie de donner de l'élan au public, quoi qu'il arrive ?
Je crois que c'est une histoire de tempérament, ça. Hein. C'est pas quelque chose qui se choisit. C'est vraiment une façon que j'ai d'aborder la vie aussi, tu vois. Tu vois, quand Nino est mort, évidemment, j'étais secoué, abattu comme tout le monde, mais très rapidement, j'ai repensé à lui dans tout ce qu'on déconnait, dans tout ce qu'on a fait en live, dans toutes les bouffes qu'on faisait, parce qu'on aimait bien bouffer et boire des coups. Donc c'est la vie qui a repris le dessus un peu. Je sais pas comment dire ça. Et ouais, c'est un tempérament. Tu vois, c'est comme à sa sépulture. J'ai dit un texte. Il y a Mehdi et moi qui avons dit un texte. Mehdi, donc Bousti, qui était aussi très proche de lui, avec, pour lequel Nino a composé. Et moi, le texte que j'ai lu, c'est je me foutais de sa gueule. Je fais putain, mais c'est encore une panne de réveil, quoi. Tu fais chier. Parce que Nino était tout le temps à la bourre. C'est vraiment le dernier mec qui avait avalé une pendule, quoi. Et il était tout le temps à la bourre. J'ai dit, ben voilà, mais on t'attend encore, tu fais chier, quoi. Et en fait, c'est vraiment une façon que j'ai de, peut-être de désamorcer la gravité de la vie, je sais pas, mais en tout cas de regarder frontalement ce qu'elle peut avoir de plus dur. Et il me semble que dans Rookine, les sujets abordés, la mort, la vieillesse, la maladie, les difficultés de ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple qui vieillit, comment ça peut vieillir quand le désir est parti, tout ça. Le fait qu'avoir des gosses, c'est génial, et en même temps, qu'est-ce que c'est casse-couille. Bon. Voilà, je pense que j'aborde les choses un peu deep et en même temps toujours avec un côté léger, ou en tout cas j'irais pas forcément léger, mais où il y a toujours une part de d'allégresse là-dedans, quoi. Voilà.
Et alors tout à l'heure on parlait justement politique, tout est un peu politique, et il y a le titre notamment populaire que je trouve super intéressant, qui a fait je pense très fort écho à plein de gens avec l'époque qu'on traverse, en fait, les législatives à ce moment-là, mais même toujours aujourd'hui. Pour toi, c'est important justement aussi que les artistes sortent des titres comme cela, où ils expriment clairement quelque chose, où ils alertent. C'est une place de l'artiste pour toi qui est importante ?
Moi, je pense que les artistes, ils font bien ce qu'ils peuvent, ils font bien ce qu'ils sentent. S'il y a des artistes qui ne sentent pas du tout de s'approprier ces sujets-là, il ne faut pas qu'ils le fassent. Parce qu'il n'y a rien de pire que de la fausse chanson engagée, je trouve. Il n'y a rien de plus pénible, parce que ça peut vite devenir l'écueil de la chanson engagée, c'est de faire la morale. Et personne n'aime qu'on lui fasse la morale. Moi, j'ai horreur de ça, et j'ai horreur de la faire. Déjà, j'ai du mal à la faire à mes gosses, donc c'est pas pour la faire à d'autres. Mais effectivement, moi, encore une fois, là, on revient à ce que je disais, c'est une histoire de tempérament. Comme moi, je m'intéresse beaucoup, et je trouve ça très important, la politique au sens large, ça ne veut pas dire grand-chose, mais où on va dire l'ordre social, la configuration sociale dans laquelle nous on s'intègre, et moi je suis où là-dedans, et qui sont les perdants de l'histoire, qui sont les dominants, qui sont les dominés, tout ça. Des choses qui m'intéressent beaucoup, bah forcément que naturellement ça va revenir dans mes chansons. Et en plus on était à une époque, je pense, j'avais digéré un peu les gilets jaunes, il y avait eu les mouvements aussi dans les quartiers populaires avec la mort de Naël, il y avait tout ça, il y avait les soulèvements de la terre, hein, tout ça, ça m'a brassé parce que je me sens très proche de ces mouvements-là, notamment des soulèvements, mais des autres aussi. C'est venu tout naturellement se déposer dans cette chanson, en fait. Hein. Après, je pense qu'effectivement, les artistes peuvent avoir... On a quand même une place privilégiée, on a un micro qu'on nous tend sous le nez et dans lequel on peut chanter devant des centaines de personnes. Bon, quand tu prends la parole, sache que cette parole est précieuse. C'est tout. Après, on a tout à fait le droit de ne chanter que des bluettes sentimentales, si c'est ça qu'on sent. Très bien, si on le fait avec le cœur et si on le fait sincèrement. Mais il faut juste avoir l'idée que pendant qu'on chante ça, on a un temps de parole qui est pris par nous. Donc moi, j'essaie aussi de chanter des choses qui sont importantes pour moi. Elles sont peut-être pas importantes pour les autres, mais elles sont importantes pour moi. Voilà, après, important pour soi, ça peut être pour parler de la mort ou parler de la parentalité, mais ça peut être aussi pour parler de sujets plus... sociaux, sociétaux ou politiques, comme dans Populaire. Ouais.
Sébastien, il y a une autre chanson qui me parle beaucoup, mais qui en fait semble avoir atteint un large public. On l'entend en live, les gens chantent les paroles vraiment par cœur. C'est L'amour à la main.
Je suis un bon copain, seul dans leur salle de bain. Yeah. Pas de témoin, je fais l'amour à la main. Et l'homme visé vitra. Et en patience attend de ma semence.
C'est l'amour à la main, c'est le ministre du pain, le verre des rois gamins, un homme qui sera pas le bien.
Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain.
faire grandir un gamin un monde qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main de millilitres d'humains pour faire grandir un gamin un monde qui ne sera pas le mien, qui ne sera pas le mien. Faire un enfant sans père, ça coûte plus un ovaire. C'est si facile, moi je me branle utile. Je tombe en miettes, en chaudes gouttelettes, au fond d'une pipette. Aux amoureuses, je donne cette eau précieuse.
C'est un sujet qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'histoire de deux copines. C'est deux super potes qui ont eu des enfants à une époque où c'était pas légal, la PMA. Et quand elles m'avaient raconté leur histoire, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, faut faire une chanson de ça, quoi. Vraiment, alors, ce n'est pas moi dont on dit je, parce que pour des raisons, comment dire, dramaturgiques, j'avais envie, et Nino aussi, ça lui plaisait très bien, qu'on se mette en scène dans le rôle du donneur. Mais en réalité, voilà, c'est un pote à elle. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose, pareil, d'un peu pareil, de problématique, au sens où c'est un mec qui donne par amitié, par un geste d'amour, en fait, d'amour, d'amitié, mais c'est un peu la même chose. Et en même temps, il y a peut-être une pointe d'amertume ou de regret, on ne sait pas trop. Mais je sais que Nino, ça le touchait beaucoup en tant peut-être comme qui n'avait pas d'enfant. Il disait tout le temps, putain, ça me tord le bide à chaque fois de dire, de faire grandir un gamin, un môme qui ne sera pas le mien. Tu vois, il y a comme s'il y avait quand même, je ne l'avais pas mesuré ça, mais peut-être un truc qui traverse l'esprit du mec à ce moment-là quand il fait son affaire dans les chiottes, avant de déposer la semence dans la pipette à Doliprane, de dire, ouais, mais en fait, bon, c'est cool, hein, c'est super, mais en même temps, waouh. Est-ce que j'ai envie ou pas ? Enfin, tu vois, il y a tout ça en même temps dans cette chanson. Et je pense que c'est ce qui la rend touchante. Parce que c'est pas dit, en fait. Mais on peut se le dire, on peut se le raconter. Mais j'aime bien quand des chansons ou des œuvres, elles ouvrent des possibilités d'interprétation.
Rookine, c'est deux albums studio, mais votre duo, c'était aussi et surtout des concerts. D'ailleurs, c'est un album live qui termine en beauté cette histoire, puisque le 13 décembre est sorti l'album live du concert La Maroquinerie. Cette histoire, tu voulais qu'elle se termine en musique.
Ouais, bah en fait, si tu veux, je pense que ça a été une réaction. Le lendemain de la mort de Nino, j'étais avec, on était à Paris, on était allé voir son corps, avec Thomas Ricou, qui est notre technicien son, qui habite Laval, qui a un studio à Théval. Et par réaction, j'ai dit, vas-y Thomas, parce qu'on savait qu'on avait enregistré ce concert à la Maroquinerie, qui était le concert de sortie d'album à Paris. Mais on l'avait enregistré vraiment sans aucune arrière-pensée de quoi que ce soit. C'est une histoire, une espèce de souvenir qu'on avait. Mais voilà, il y avait les ambiances publiques, il y avait les cordes qui étaient là, le trio, il y avait les quatre invités qui étaient là, on avait tout enregistré en piste séparée. Et je me suis dit, mais vas-y, tu sais quoi, on va le sortir ce putain de live. Mais une espèce de réaction à cet arrêt de tout, à cet arrêt brutal, de dire fuck quoi, vas-y, tu sais quoi, on va le sortir ce live. Et fais chier quoi. Et en plus, ça permettait de partir en musique aussi, tu vois, parce que partir sur un post Instagram, c'est quand même tristoun, quoi, tu vois. Donc partir en musique avec un live, c'est la vie par définition. Et puis il n'y avait rien qu'on aimait tant que le live. Franchement, lui comme moi, le live, c'était vraiment là que tout prenait son sens et qu'on pouvait se lâcher. Le studio, c'est toujours, moi je l'ai vécu comme ça et lui pareil, une période un peu très excitante mais aussi très inquiète. Tu sais jamais ce que ça va donner, tant que t'as pas la validation du public, t'es toujours en train de te faire des nœuds au cerveau et tu fais écouter à 15 personnes, enfin surtout Nino, il était infect pour ça, il faisait écouter à 30 personnes, je dis mais vas-y, tu vas faire écouter à ta grand-mère, à ta mère et chacune va te donner un avis différent, on va pas s'en sortir quoi. Bon, moi aussi je suis inquiet hein, ceci dit, mais au moins une fois que c'était fini et que ça partait en live, là on était parti et c'était vraiment la salle de jeu en fait. Et y avait le public et c'était validé. Et en plus, surtout que Rookin, on a eu la chance, notamment au deuxième album, que le public chante tout par cœur, partout où on allait, quoi, que ce soit à Toulouse, Bordeaux, Bruxelles. C'était assez dingue. Y avait un truc qui commençait à se passer, très clairement. Voilà, je le dis sans amertume, hein, sans regret, mais c'est un fait. Il y a quelque chose qui était sur le point vraiment de prendre une dimension qu'on n'aurait vraiment pas imaginé. Déjà, depuis le début, Rookin, c'était un truc qu'on a fait pour se marrer en studio à 3h du matin, un peu alcoolisé, sur des chansons qui nous faisaient marrer, dire enfant enfoiré, moi ça me faisait rire. Et au final, ça devient un truc voilà, qui commençait à devenir gros, en fait, et qui rencontrait un écho, qui faisait beaucoup écho chez les gens. Donc il y a quelque chose de très touchant. Donc ça donnait envie de finir la boucle avec les gens, et les gens, on les entend sur cet album en fait, parce que il y a quelque chose de très c'est des concerts chantés avec le public aussi, les concerts de Rookin. Donc je trouvais ça bien de les inclure, d'inclure le public sur cet album. Donc la seule façon de faire, c'était un live en fait.
Danse tous mes potos pour mon dernier tour complet. Allez, je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade, mais fair play. Un frangin que je ne voyais plus dans ses bras vient m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée. Maman, filé au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire.
Tous les deux, vous collaboriez aussi énormément avec d'autres artistes. J'ai envie de te demander, quand tu écris pour toi, c'est une chose, le ton, ta manière de toi vouloir raconter quelque chose, le ton, les mots que tu choisis, c'est une chose. Mais quand tu écris pour un autre artiste, j'imagine que du coup, tu dois aussi te mettre un peu dans sa peau. Comment est-ce que ça se passe pour toi quand tu fais ça?
Ouais, il y a vraiment un côté sur mesure qui est vachement intéressant. Quand tu écris pour... quelqu'un, par exemple en ce moment j'écris pour un artiste trans de 26 ans, je précise qu'il est trans parce que c'est très important dans les textes, il tient à en parler. Donc là c'est un mec de 26 ans, citadin mais nantais, pas parisien même s'il vit à Paris maintenant, qui a ses problématiques à lui, liées à sa transidentité, mais aussi liées à son âge, à l'époque dans laquelle il est, etc. Donc moi quand je suis avec lui, je l'écoute parler mais j'écoute autant ce qu'il me dit que comment il me le dit. Parce que tu vois, t'es aussi sans faire du mimétisme, mais tu dois rentrer aussi dans le langage de l'autre, dans son... Le langage aussi, c'est le psychisme de l'autre, c'est la matière avec laquelle on s'exprime. Donc il y a tout ça, c'est super intéressant. Moi j'adore ça, hein. T'es là, moi je prends des notes, je regarde même comment il bouge, comment il est. J'essaie parfois de prendre des... Une fois qu'on a fini l'entretien, c'est même là que je prends plus d'infos, parce que le mec se lâche en fait. Et là il parle et là il se dévoile presque plus. C'est vachement intéressant à observer ça. Et même en interview, je pense que ça doit arriver. T'as des gens, une fois que l'interview est finie, ils se détendent et là ils te lâchent des infos. C'est assez marrant ça. Peut-être l'authenticité de la personne. Parce qu'on est toujours un peu en représentation, tu vois. Là, j'essaie d'être vraiment avec toi, tu vois, et de répondre le plus fidèlement à ce que tu dis. Mais je fais des efforts aussi, tu vois. J'essaie de bien parler, de pas dire trop de. Enfin bref. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant, cette espèce d'observation et d'écoute de quelqu'un. Et ça te met, toi, vachement en retrait. Donc, ne serait-ce qu'à partir de là, c'est pas du tout le même travail que quand toi, t'es à l'écoute de toi-même et de tes propres problématiques et de ce qui t'intéresse et tout ça, et dans quoi je suis. C'est autre chose. C'est un peu... T'as un décentrement quand t'écris pour quelqu'un d'autre. Et avec l'acceptation de la frustration que toi, t'as la sensation d'avoir écrit un truc qui défonce tout et qu'en fait, ça parle pas du tout à l'artiste en question. Toi, t'es dégoûté, mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui va le chanter. Donc, c'est vraiment un décentrement à tout point de vue. Ce qui parfois est un peu, je trouve parfois un peu ingrat, entre guillemets. Hein, faut pas déconner, hein. On n'est pas à l'usine non plus. Mais voilà, il y a un truc où t'es là, ah, ok, tu l'aimes pas ça hein. Bon, bah, tant pis, je le garderai pour moi, je le refourguerai à quelqu'un d'autre. Mais au final, c'est quand même quelque chose de très très intéressant à faire, et d'autant plus que tu rencontres des gens extrêmement différents, qui ont des parcours de vie différents, qui viennent de milieux sociaux différents, et donc à chaque fois, moi j'adore ça, je suis hyper curieux, donc je prends plein de trucs moi, tu vois, ou quand tu bosses pour ou des gros bazars, hein, des grosses machines comme Bruel par exemple, où là c'est autre chose, c'est un mec de 60 ans passé, qui a un énorme background, il a des films, il a des kilos d'interviews et de concerts, bon bah en fait t'as même pas besoin de lui parler. Tu le connais déjà. Donc moi, les deux chansons que j'ai faites pour lui, pour Bruel, je les ai faites sans le voir, en fait. Et bon, on a eu du pot, paraît-il. Mais écoute, en tout cas, ça a marché. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est autre chose. Il y a un côté, une espèce de symbolique qui va au-delà de t'aimes ou t'aimes pas l'artiste. C'est que c'est une espèce de Johnny Hallyday, en fait, Bruel, maintenant. C'est un truc marrant, en fait, de faire des chansons pour ce type de personne. Il y a quelque chose de... Ouais, une espèce de symbole.
Et donc ça, c'est le genre de projet, tu veux continuer?
Ah oui, carrément, je continue beaucoup en ce moment. Je continue beaucoup, j'écris pour plein de gens très divers. Donc il y a Charlie Pal, qui est cet artiste trans dont je parlais tout à l'heure, qui va sortir son single bientôt, là, d'ici un mois. Après, on ne sait jamais ce que ça va donner, parce qu'en fait, t'es pas à l'abri que les titres ne sortent pas. Parce qu'au final, t'es pas tout seul sur l'histoire, il y a plusieurs auteurs compos. Mais là, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai écrit plein de chansons pour Florent Pagny, par exemple. Où j'ai passé 3 jours en studio avec Amel Bent aussi, qui est une super meuf d'ailleurs, qui est vraiment quelqu'un de très chouette, très, très drôle, très péchu, assez stimulante, assez fatigante aussi, mais hyper stimulante. Mais voilà, j'ai écrit pour eux, j'ai écrit avec eux, j'ai composé aussi. Mais... au final, j'ai pas le fin mot de l'histoire et je ne sais même pas si les chansons que j'ai faites seront prises. Donc t'as toujours une espèce, notamment dans ce game de la variété française, où il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, t'es jamais à l'abri que ta chanson soit chassée par l'un des innombrables auteurs compos qui ont été embauchés pour bosser sur le sujet, quoi, tu vois. Mais c'est pas grave parce que tu rencontres des gens, il y a un côté un peu ingrat à l'ingratitude, c'est que quand tu composes ou quand tu écris, tu n'es pas payé. Tu es payé uniquement si la chanson est sélectionnée et prise, et tu es payé en droit d'auteur. Tu n'es pas payé en cachet. Donc là, tu vois, j'ai fait des kilos de chansons, probablement totalement dans le vent. Donc c'est comme si tu bossais 2-3 semaines gratos. Quand tu sais que c'est parfois pour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont signé pour des contrats en or dans des maisons de disques, tu te dis bon... C'est un peu gonflé, ce serait bien de changer ça quand même. Mais voilà, malheureusement, c'est pas moi qui fixe les règles du jeu. Donc pour l'instant, on en est là. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. Là, tu vois, ça correspond. J'ai toujours fait ça, mais là, je le fais de façon beaucoup plus intensive depuis la rentrée, parce que le contexte aussi, tu vois, voilà, Rookin, c'est fini, Niro, il est plus là. Et il y a plein de gens qui m'ont appelé pour me proposer de bosser. Donc, en fait, je les remercie au bout du compte que mes chansons soient prises ou pas. voilà, j'ai rencontré plein de gens avec qui faire ces chansons. Je me suis globalement marré et c'est très très bien comme ça.
Tu continues d'écrire pour d'autres artistes, tu laisses de côté pour le moment l'écriture de chansons pour toi?
Pour l'instant, non, je me sens pas du tout l'envie de remonter un projet de chansons. Flemme. Non, flemme, et puis... non, j'ai envie de faire un pas de côté, en fait. Puis ça correspond peut-être à une période de ma vie. C'est peut-être un peu con, mais tu vois, j'ai 48 ans... J'ai l'impression qu'il faut, pour un projet chanson aujourd'hui, un projet pop, un projet quel qu'il soit musical, faut une niaque et une abnégation devant notamment la communication réseau sociétal que moi, j'ai plus. Déjà, je l'ai jamais vraiment eu, mais là, j'ai une flemme de ça. J'ai l'impression de plus trop être dans le coup à ce niveau-là. Tu vois, le TikToking et l'Instagramming et tout ça, je le fais un peu par défaut. Mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup le pas sur le reste. Alors que dans le spectacle vivant, je pense qu'on a encore une marge de manœuvre. Quand je dis spectacle vivant, c'est tout ce qui est plutôt transdisciplinaire, aux confins du théâtre et de la musique. Les projets de chansons pures, ça me semble beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Mais je suis peut-être biaisé, c'est peut-être aussi que je suis très, marqué par Rookin et par la fin brutale de Rookin, forcément. C'est aussi que ça fait longtemps que je fais ça, je pense c'est un mélange de plein de choses. Il y a plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai envie de continuer à faire du spectacle, mais sous une autre forme.
Tu es justement actuellement sur d'autres projets, Sébastien, l'écriture d'un roman, la création d'un spectacle qui mêle chanson et théâtre, et on y reviendra dans cette émission avec plaisir. Merci pour l'accueil, Sébastien, et pour le temps que tu nous as accordé. Merci.
Avec plaisir, avec plaisir.
Et c'est le grand format dans la JT. On continue cette émission avec l'agenda culturel de la semaine qui nous emmène au Théâtre de Laval. Et on restera à Laval aujourd'hui. Le samedi 25 janvier à 20h30, le théâtre accueille un concert solidaire au profit de Mayotte, durement touchée mi-décembre par le cyclone Chido. C'est une soirée organisée avec la ville de Laval, le Secours Populaire et le théâtre qui réunira pas moins de 4 groupes. Le chœur qui fait boum, que vous connaissez bien, la croqueuse Better Than Fine et Bleugras. Alors les fonds collectés lors de cet événement seront reversés pour l'aide d'urgence et la reconstruction de l'archipel grâce à l'implication du Secours Populaire. La communauté comorienne de la Mayenne sera également mobilisée pour soutenir les artistes qui se produiront bénévolement. Une belle occasion d'associer culture et solidarité. Mais alors on fait quelques pas, on marche un petit peu dans ce froid et on se rend au 6x4 ce soir, le vendredi donc 17 janvier. Le 6x4 vous invite à une soirée musicale unique dès 20h30 avec sur scène Arial Tintard, cet artiste martiniquais mêle pop, samba et chansons créoles, créant des ponts entre modernité et tradition entre la France et les Caraïbes. À 22h15, place au groupe Delgré qui vous embarquera avec son rock soul puissant et intime. Avec son nouvel album sorti en 2024, Delgré continue d'explorer des thématiques universelles comme le déracinement et la quête d'identité, le tout porté par une musique vibrante et engagée. Il est encore temps d'aller l'écouter sur toutes les plateformes et de prendre vos billets. Donc c'est 2 soirées à ne pas manquer pour vivre des émotions fortes et sortir de chez soi. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Sébastien d'avoir été à mon micro. Rendez-vous maintenant sur toutes les plateformes d'écoute pour découvrir l'album live de Rookin à la Maroquinerie. Voilà, je rends l'antenne dans 30 secondes, mais je vous le dis quand même, votre soirée commence à 19h avec l'émission Dance Hall Social Club qui sera suivie à 20h de Tempus Fugit avec des découvertes musicales en tout genre. Pour la programmation du week-end, rendez-vous sur notre site internet l'autreradio.fr. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Steven du festival Un Saint-Jean-Été qui va nous parler des tout premiers noms de la prochaine édition du festival. D'ici là, profitez du week-end comme il vient, laissez filer les heures, ayez un geste, une attention pour quelqu'un qui ne l'attend pas. Et puis bien sûr, s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.